BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Parce que l'avenir est le seul endroit où l'on est certain de passer tous le restant de nos jours et que la blockchain en est une fraction. Les pros des cryptos, chaque vendredi, 16h35 sur BFM Business. Aujourd'hui, Claire Balva. Bonjour Claire.
Bonjour.
Cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Owen Simonin est à nos côtés aussi aujourd'hui. Bonjour Owen.
Bonjour.
Alias Asher sur les réseaux sociaux et votre chaîne YouTube du même nom, Asher. Vincent Gann est toujours avec nous. Vincent pour oui. TradingView France. Tiens Vincent, on va démarrer avec vous.
Oui.
Cette semaine, ça a été quand même La semaine où le Bitcoin est tombé sous 30 000 $, c'était
oui.
mardi et vous faisiez tous la grimace, je m'en souviens.
Et depuis, c'est pas mieux. Sous les 30 000 $.
Alors, mais il a rebondi depuis, il a encore rebondi oui. autour de ces 30 000. Est-ce que ça signifie que cette barre des 30 000, c'est un seuil finalement solide pour construire la suite sur le Bitcoin?
Oui, alors on parlait à l'instant du marché action qui, lui, depuis début d'année, progresse sans correction, sans retracement. Et puis même au mois de mai, hein, traditionnellement un mai, saisonnalité défavorable, continue de progresser. Par contre, en mai, le marché des crypto-monnaies était la grande victime de cette saisonnalité. Alors moins 50% pour le cours du Bitcoin depuis ses records historiques. Et puis effectivement, depuis environ un mois, un support qui est défendu, le support des 30 000 dollars qui est défendu depuis le choc correctif du mois de mai. C'est le support technique majeur, en tout cas un large spectre d'outils techniques mettent en avant cette zone. Alors, cette semaine, en début de semaine, mardi, si mes souvenirs sont bons, le marché a basculé en dessous, mais une ou deux heures, et puis finalement l'a réintégré. Donc, pour la quatrième fois, le support est défendu. Maintenant, la question cruciale, c'est de savoir si les traders institutionnels, les mains fortes, savoir si ces traders institutionnels accumulent sur le niveau des 30 000 dollars pour à terme relancer le bull run. Alors, moi, j'ai différentes données. Ce que j'observe, même si c'est pas très net, c'est une remontée de la position ouverte nette. Alors, la différence entre les positions à l'achat et à la vente sur les dérivés, hein, pour les instits. Donc, il y a quelques indications en faveur d'une phase d'accumulation sur ce support des 30 000 dollars. Donc, très bien. Ça, c'est une chose, mais ce n'est pas encore suffisant. Si vous voulez, pour conclure sur cet aspect technique, pour retourner une phase corrective, celle qui a commencé en mai, se stabiliser, c'est bien, c'est une bonne chose, mais pour valider une configuration de renversement aussi et pour relancer Bullrun, eh bien, il faut dépasser un seuil technique et avec volume. Et ce seuil technique, eh bien, il n'a pas changé, et tout le monde l'a en tête, le niveau des 40-42 000 dollars. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, sans franchissement avec volume des 40-42 000 dollars, eh bien, on reste dans le processus correctif qui a démarré en mai.
Oui, donc il faut toujours garder cette prudence, cette distance, hein, que vous proposez aujourd'hui aux auditeurs et téléspectateurs. Alors ce vendredi 25 juin, c'est une journée importante, pas seulement parce que c'est l'anniversaire de ma mère, ça on s'en fiche, c'est surtout parce que c'est une séance boursière importante pour les traders, Vincent, sur le marché des options Bitcoin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et quelles conséquences cette journée pourrait avoir pour la suite?
Oui, alors j'en parlais à l'instant. La grande différence entre le marché haussier 2015-2017 pour le Bitcoin et le mouvement en place depuis maintenant plus d'un an, c'est la bonne représentation des traders institutionnels, de la haute finance. Alors, bon, les traders privés sont toujours là. D'ailleurs, leur effet de levier excessif, la dette de marge, bref, ça a eu un impact, hein, sur le décrochage il y a quelques semaines. Mais ce sont les traders institutionnels qui ont quand même porté le mouvement. Alors, on se pose tous la question de la relance de cette tendance haussière. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une journée importante puisque c'est une grosse journée d'expiration essentiellement pour les options Bitcoin. Alors, les institutionnels, hein, ils se positionnent en grande partie via les contrats futurs et les contrats d'options. Si ces mains fortes considèrent que les 50% de baisse depuis le record historique est une opportunité, eh bien, c'est aujourd'hui, au début de semaine prochaine, qu'on va être fixé. Lorsque l'échéance arrive, le trader peut exercer son option ou pas, peut décider de basculer sur l'échéance suivante ou pas. Bref, c'est le moment de vérité quant au positionnement de ces mains fortes. Donc voilà, je pense que à la question de savoir est-ce que les 30 000 dollars sont le point bas de la phase corrective qui a démarré il y a quelques semaines, on sera fixé maintenant, aujourd'hui, d'ici la clôture ce soir, tout début de semaine prochaine, on y est.
Cette journée du 25 juin relativement importante, donc techniquement, vous l'avez parfaitement expliqué, Vincent, dans un contexte un peu chahuté quand même pour les crypto-monnaies, en tout cas pour le Bitcoin en ce moment, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Les signaux négatifs sur le minage en Chine se multiplient, on voit des mineurs du coup annoncer leur départ suite aux restrictions sur l'activité de minage dans le Sichuan. Le Bitcoin sans la Chine, est-ce que c'est seulement envisageable? D'abord d'ailleurs, pour démarrer, qu'est-ce qu'elles font les entreprises de minage qui opéraient en Chine? Elles ont un plan B face aux caprices gouvernementaux chinois?
Alors,
Owen.
L'interdiction n'a pas encore touché tous les mineurs. Ça a touché qu'un petit groupe de mineurs, 26 fermes, si je ne dis pas de bêtises, dans le Sichuan, qui représente quand même 10% de la puissance de calcul mondiale. On parle quand même d'une bonne partie de la Chine. En l'occurrence, il n'y a que quelques entreprises qui ont déjà bougé, mais tous les entrepreneurs qui n'avaient pas de plan B commencent à y réfléchir très sérieusement. Il y a certaines machines qui sont envoyées aux États-Unis, il y a déjà eu quelques exemples, beaucoup qui se dirigent vers le Kazakhstan, parce qu'il y a des sources d'énergie vraiment pas chères là-bas et des accords du gouvernement, bien que la situation n'est pas toujours très stable. Et du coup, on commence à voir des premiers déplacements de fermes de minage qui quittent du coup la Chine pour aller s'installer ailleurs. Il y a également le plus gros constructeur mondial de machines de minage, Bitmain, qui a décidé d'arrêter de vendre parce qu'il y a beaucoup plus de machines de seconde main et que le marché est inondé. C'est important de maîtriser son marché de seconde main. Et il y a tellement de mineurs chinois qui revendent des machines d'occasion qu'ils ont décidé de ralentir les ventes des produits neufs.
C'est intéressant. On voit en tout cas à quel point Bitcoin dépend en grande partie d'un pays, la Chine, un actif décentralisé dans la main quand même d'un acteur étatique très puissant. Est-ce que cet arrêt du minage en Chine, Claire, est une bonne chose, au final peut devenir une bonne chose, peut s'avérer devenir une bonne chose?
Oui, complètement. Alors à court terme, c'est sûr que c'est un coup dur pour les mineurs chinois qui doivent se réadapter. On a vu aussi qu'il y avait une grosse baisse du hash rate, donc de la puissance de calcul sur Bitcoin. Mais à long terme, finalement, ça peut devenir une bonne chose parce que ça va conduire à plus de décentralisation. On avait une grande prédominance de la Chine dans le minage de Bitcoin, ce qui, vous le disiez, pour un actif décentralisé n'est pas tout à fait cohérent. Et en termes de gouvernance, ça pouvait poser problème. En tout cas, les mineurs ne s'en satisfaisaient pas. Et donc là, ça va conduire à plus de décentralisation. Ça va aussi être une opportunité pour certains pays, peut-être, d'attirer les mineurs chez eux et de se placer sur cette industrie. Peut-être qu'en France, ça pourrait être une bonne occasion d'ailleurs.
Vous sentez que la France tente de saisir l'occasion? Non, c'est pas complètement criant.
Je pense pas qu'on en soit là, mais ce serait intéressant de voir ça.
En tout cas, ce qui se passe en Chine n'empêche pas l'écosystème de continuer par ailleurs de se constituer, de se construire. Et c'est pour ça que ces pros des cryptos nous rejoignent chaque vendredi sur BFM Business. Enfin, ça reste un peu la jungle quand même. On voit parfois des parasites prospérer dans cette jungle. Une affaire au fort goût d'arnaque a quand même fait trembler l'écosystème crypto cette semaine en France. On parle de dizaines de millions d'euros disparus. Ils étaient gérés par une association dijonnaise dont le président d'ailleurs est désormais introuvable. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Claire?
Alors l'association s'appelle RR Crypto. Effectivement, c'est une association loi 1901 qui est basée aux alentours de Dijon et qui concrètement faisait de la gestion de fonds, de la gestion de crypto-monnaie pour ses clients et qui se rémunérait avec une commission sur les gains et qui promettait d'ailleurs des rendements mensuels assez élevés. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est que le 20 juin dernier, les clients de cette association ont reçu un email leur expliquant que les fonds avaient été perdus, donc environ entre 40 et 58 millions selon les
sources. Oups.
Voilà, oups, évidemment. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça s'écrit au conditionnel aujourd'hui. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. Le fondateur de cette association explique que son compte Binance a été réinitialisé. Alors c'est un peu difficile à croire, en tout cas on voit pas bien ce qu'il veut dire. Binance a tout de suite démenti, son porte-parole s'est même réservé le droit d'intenter des actions en justice contre le fondateur de cette association RR Crypto. Il y a aussi des enquêtes de certains médias français comme le Journal du Coin qui pensent que voilà, potentiellement il y a une seule adresse qui gérait les fonds qui a peut-être été perdue, qu'il y a une grande partie des fonds sur cette adresse qui sont dans un token appelé le Neutrino Token dont RR Crypto détiendrait 90% de l'offre, donc des tokens invendables, donc peut-être une stratégie d'investissement qui s'est mal passé finalement. Alors on ne sait pas trop, mais je pense qu'il va probablement y avoir des enquêtes pour savoir ce qui s'est exactement passé.
Enfin, la France, c'est quand même le pays pas que du fromage, c'est le pays de la réglementation aussi. Ça signifie que cette activité-là n'est pas encore bien réglementée en France, Owen?
Ça signifie qu'elle ne suivait pas du tout la réglementation. Déjà, lancer une activité de gestion de fonds avec une association, n'importe qui, nous-mêmes, on pourrait ouvrir une association et gérer les fonds des gens. Évidemment, le régulateur ne peut pas, surtout aujourd'hui, alors qu'il est à peine en train de poser les premières bases, vérifier toutes ces structures une à une. C'est simplement impensable et irréalisable en si peu de temps. Malgré tout, la personne qui a déjà apparemment échangé avec l'AMF savait très bien qu'elle n'avait pas le droit, sans PSAN, donc sans devenir prestataire de services d'actifs numériques, de gérer les fonds des gens. En plus, une gestion collective, il faut un véhicule d'investissement pour gérer plusieurs clients, les fonds de plusieurs personnes et prendre des décisions pour eux. Donc, il n'avait même pas le droit de faire ça. Même avec une simple société, sans que ce soit une association, il n'aurait pas eu le droit. Donc là, pour le coup, ils auraient fini à un moment ou à un autre par se faire attraper, car premier problème, ou si l'AMF avait eu vent de ses activités, ils auraient tout de suite sanctionné et c'est des fautes qui auraient été considéré comme très grave, car ne respectant strictement aucune règle définie par l'autorité des marchés financiers à l'heure actuelle.
Et pourtant, les gens y ont placé, y ont laissé de l'argent, quoi.
C'est ça. Et d'ailleurs, beaucoup de gens diront qu'ils ne le savaient pas. Mais globalement, ils ne se sont pas cachés du fait d'être une association. Là où il y a un petit discours, et on ne peut pas le vérifier à l'heure actuelle, c'est qu'apparemment, le gérant aurait dit qu'il était en train d'échanger, qu'il avait un dossier en cours d'instruction auprès de l'autorité des marchés financiers. Ce qui n'a, selon certaines sources en interne de RR Crypto, jamais été le cas. Ce n'a jamais été le cas, c'était même pas dans les objectifs, mais ça calmait les clients et au moins ça donnait un petit côté sérieux à cette initiative.
Bon, il y avait une réglementation, elle est bien là en France, elle est bien constituée, mais on peut la contourner facilement. Enfin, on peut la contourner tant que les gens font confiance. Voilà, c'est aussi au grand public de.
Là pour le coup, et puis avec des milliers de clients, il aurait fallu qu'une seule personne envoie un message en disant non, mais Pat, c'est pas du tout ce qui se passe. Et pour le coup, personne de plusieurs milliers de clients, personne ne l'avait fait.
Claire, on a fait le tour là-dessus. Sur cette polémique quand même qui aura un peu ébranlé la communauté crypto en France.
Et qui n'a pas fini de le faire.
Qui n'a pas fini. Ah oui, il y aura d'autres rebondissements.
Quand on aura la vérité sur la fin de cette histoire, oui.
C'est le journal du coin, hein, c'est ça qui a révélé les choses cette semaine.
Exactement, mais je pense que d'autres médias vont s'en emparer et mener leur enquête aussi.
On imagine bien. On va parler dans un instant de la crypto qui affiche le meilleur potentiel pour la suite. Hein. Vincent Gann, vous êtes toujours avec nous, il va falloir vous mouiller dans un instant. Vous êtes là, Vincent, vous ne cachez pas. Vous êtes toujours là, c'est parfait. Donc dans un instant, d'abord on part peut-être au pays du Bitcoin, pas la Chine pour le coup, c'est le Salvador qui est devenu donc une véritable nation de référence de la communauté crypto mondiale en acceptant de donner au Bitcoin le statut de monnaie légale. Enfin, est-ce que c'est si simple? Il suffit d'accepter de dire voilà, c'est une monnaie légale pour que les choses se fassent ou c'est compliqué à mettre en place, Owen?
En réalité, il y a déjà un gros effet d'annonce parce que globalement, on peut adopter le Bitcoin et l'utiliser comme une monnaie pour payer, pour échanger, pour utiliser la technologie sans que ce soit une monnaie légale. Il suffit qu'elle soit autorisée et même si ce n'est pas une monnaie légale du pays, tant que c'est légal de l'utiliser, on peut le faire. Par contre, un pays qui se positionne voulant en faire une monnaie légale, c'est quelque chose de très très fort.
Bon, c'est très fort, ça c'est sûr. L'annonce a fait grand bruit, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il est possible que cette mise en place, néanmoins, du Bitcoin comme monnaie légale pose problème? Enfin voilà, l'annonce c'est quelque chose, après il faut rentrer dans le dur. Il y a l'opérationnel. Est-ce que là-dessus, le Salvador est en train de décevoir, Owen? Je vous la pose cash, la question.
Alors, il y a plein de choses qui arrivent, notamment certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec la politique en place, notamment l'opposition de cette politique, qui portent plainte en disant que le Bitcoin aurait des conséquences, ils portent plainte contre le parti en place à l'heure actuelle. Évidemment, ça fait du bruit. En parallèle de ça, on a le Paraguay, un voisin, qui veut faire la même chose. En tout cas, deux membres du Parlement qui ont une très bonne idée et qui veulent pousser ces idées-là pour faire exactement la même chose. Donc, il y a un effet domino qui fait un petit peu peur en Amérique centrale, quand même, parce que ça peut toucher beaucoup de pays qui ont les mêmes problématiques. Et à côté de ça, ça va demander du temps. Mais ils vont lancer un nouveau wallet. Le pays lui-même, le Salvador, va lancer un portefeuille et compte même offrir $30 à tous les personnes sur place qui l'utiliseraient pour accepter du Bitcoin, en plus des autres solutions qui existent déjà. C'est aux particuliers. C'est une monnaie qui vient du peuple, qui sera utilisée par le peuple et qui aidera le peuple. C'est au peuple de se débrouiller pour accéder à cette technologie.
Bon, en France, on a les écologistes qui veulent offrir un vélo à tous les lycéens. Là-bas, on offre $30 donc pour
ce qui représente beaucoup là-bas.
Ça représente 10% du SMIC là-bas. Donc,
ah oui,
c'est assez significatif.
Voilà, pour se lancer dans le Bitcoin. Donc, c'est ce que projette le Salvador.
Tout à fait.
Impressionnant. Est-ce qu'il est possible que cette mise en place, du coup, soit malgré tout, dans la mesure où il y a quelques petits grains de sable, c'est pas si facile. Il va falloir trouver des façons aussi d'attirer de plus en plus de monde. C'est pas très compliqué au Salvador, mais voilà, il faut constituer tout cela. Est-ce que vous pensez que l'agenda sera tenu pour donner au Bitcoin un statut de monnaie légale et que cela entre véritablement dans le fonctionnement économique du Salvador, Claire?
Alors, théoriquement, tout est possible. L'entrée en vigueur de la loi est prévue début septembre prochain, donc c'est vrai que ça va vite. Il est quand même probable que le président ait le soutien du peuple, comme l'a dit Owen, et puis aussi de la Cour suprême qui va examiner un petit peu les plaintes de l'opposition. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'ambition, c'est pas que le Bitcoin remplace le dollar au Salvador. Le dollar va continuer à être une monnaie de référence pour la comptabilité, par exemple. Les citoyens qui ne veulent pas recevoir du Bitcoin n'en recevront pas. Ça a été annoncé par le président du Salvador hier. Donc, il n'y a pas d'obligation à utiliser le Bitcoin pour le peuple. Donc, c'est pas non plus un grand chambardement, un grand bouleversement. Et donc, je ne pense pas qu'il y a un intérêt à annuler cette loi ou à la retarder. Moi, je pense que l'agenda sera probablement tenu, mais encore une fois, théoriquement, tout est possible. On n'est pas à l'abri d'un retournement.
Ça, c'est sûr.
Et en tout cas, le président du Salvador est toujours complètement convaincu, puisqu'il a qualifié son projet de bulletproof. Donc lui, en tout cas, reste très serein.
Bon, Vous nous alerterez, hein, on va continuer de suivre tout ça grâce à vous, les pros des cryptos. C'est chaque vendredi, 16h35 sur BFM Business. On essaie aussi de répondre aux questions pratiques que se posent peut-être les Français aussi qui s'intéressent aux crypto-monnaies. On rappelle quand même que c'est de la diversification. Évidemment, on investit en crypto que l'argent dont on n'a pas besoin. C'est vrai pour beaucoup de placements et en particulier aussi pour ces cryptos. Un particulier qui nous interpelle donc et qui nous demande, tiens Claire, c'est pour vous, qui nous demande quels sont les endroits permettant au grand public d'acheter des crypto-monnaies.
Ah, excellente question. C'est vrai qu'avec l'affaire Air Crypto, je comprends que ces questions se posent. Moi, mon conseil, c'est tout simplement d'aller voir sur le site de l'AMF la liste des entreprises qui ont cet agrément, ce fameux agrément PSAN. Donc, vous tapez AMF PSAN sur Google, vous allez rapidement tomber dessus. Il y en a entre 15 et 20 en France, si je ne me trompe pas. Vous avez les plus anciennes comme Paymium et Coinhouse. Vous avez les entreprises d'Owen, Just Mining, par exemple.
C'est vrai, Owen aussi, il propose ça. Oui,
voilà, Descoin. Vous avez Stackinsat, qui est basé à Biarritz, qui vous propose un service d'épargne en Bitcoin où vous pouvez épargner tous les mois. Donc voilà, il y en a plein. Toutes celles-ci sont légitimes, je ne vais pas toutes les citer, mais l'idéal, c'est le site de l'AMF, aller regarder la liste des PSAN.
On appelle ça comment? Des exchanges? C'est ça, les exchanges? Alors, quoi un exchange? On voit ce mot-là passer parfois quand on s'intéresse aux
cryptos. On en entend beaucoup d'eux, un broker et un exchange. Un broker, c'est quelqu'un qui va proposer quelques assets et qui va proposer de l'échanger depuis des monnaies fiat, euro-dollar, vers de la crypto-monnaie et vice-versa. Un exchange, c'est également une plateforme qui propose un marché secondaire permettant aux particuliers qui souhaitent vendre et aux particuliers qui souhaitent acheter d'être mis en relation.
Bon, voilà, c'est important. Voilà, c'est notre dictionnaire aussi. Justement, tiens, puisqu'on parle de ça, allons-y, allons plus loin. Depuis l'entrée en bourse de Coinbase, on a cité tout à l'heure Coinbase, on attendait de nouvelles annonces et cette semaine, on n'a pas été déçus. On a vu que Coinbase a réussi à obtenir l'enregistrement auprès des services financiers. Et puis l'autre acteur, Binance, lui, lance sa propre plateforme de tokens non fongibles, les NFT. On voit clairement là deux stratégies différentes de la part de ces deux géants. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, pour la suite? Comment est-ce que vous analysez cette bataille, Owen?
C'est drôle parce qu'elles sont bien différentes, mais finalement, elles s'attaquent au même marché. On a Coinbase qui vise le chemin de la régulation et le chemin des institutionnels, avec quelques produits bien diversifiés qui s'adressent aussi aux particuliers, mais qui s'adressent principalement aux grosses entreprises et aux gros volumes, et qui va petit à petit chercher les régulateurs de chaque pays pour avoir le droit d'exercer et de se développer dans ce sens-là, notamment au Japon, qui viennent d'obtenir le droit d'exercer là-bas en toute règle. En parallèle de ça, on a Binance qui s'adresse beaucoup plus au marché. On avance comme on peut, on se régulera évidemment parce qu'on est un géant, on veut avoir le droit d'exercer, mais ça c'est un problème secondaire. Le plus important c'est livrer et être suffisamment agile pour permettre aux particuliers et leur donner des solutions fiables et sécurisées d'utiliser ce monde assez barbare qui est celui des crypto-monnaies quand on ne connaît pas, mine de rien. Et donc les deux avancent différemment. Binance propose toutes les solutions, Coinbase avance plus sûrement, mais est déjà en bourse par exemple. Et là, sur le tout dernier move de ces deux grosses entreprises, Coinbase vient d'être régulé au Japon, alors que Binance vient de recevoir un avertissement comme quoi ils continuent à exercer au Japon alors qu'ils n'ont pas encore avancé sur leur dossier. C'est une histoire de temps. Quoi qu'il arrive, je pense que ces deux géants seront sur le marché à la fin de l'histoire. Maintenant, à voir s'il n'y en a pas un qui, pour aller trop vite, va se brûler les ailes.
Tous les chemins mènent à Rome. C'est un peu ça l'idée. On a là deux stratégies différentes de la part de ces deux géants. On a l'impression d'être dans un film d'action avec ce combat entre deux titans. Claire, est-ce que l'un des deux, d'après vous, va finir par l'emporter?
Pas forcément. Moi, je vois bien les deux coexister. Hein. Owen l'a dit, ils n'ont pas du tout la même stratégie. Aujourd'hui, Coinbase s'adresse beaucoup plus à des utilisateurs novices, je dirais, avec une expérience utilisateur qui est beaucoup plus simple, des frais aussi qui sont un peu plus élevés, alors que Binance a cette stratégie de intégrer le plus de projets possible. Mais ça peut être beaucoup plus compliqué à utiliser. Donc, Binance n'est pas forcément l'outil préféré des novices, mais va plutôt convenir à des traders. Moi, je vois bien les deux coexister. Alors après, peut-être que l'Europe va aussi se réveiller pour essayer de faire émerger un champion, sans quoi on serait condamné à jongler entre deux géants, l'un américain et l'autre d'origine chinoise. Il y a peut-être un autre scénario aussi où les exchanges décentralisés, par exemple comme Uniswap, peuvent se positionner petit à petit sur ce marché-là pour venir concurrencer les gros. On voit qu'Uniswap, par exemple, a déjà réussi à avoir des volumes qui dépassaient un peu ceux de Coinbase il y a quelques mois. Donc, ce n'est pas impossible que de nouveaux acteurs arrivent et concurrencent ces géants.
Y compris européens, vous y croyez vraiment?
En tout cas, je l'espère.
Vous travaillez pour?
On fait le maximum.
Tiens, on va se reconnecter au Bitcoin. On rappelle le cours du Bitcoin cet après-midi. On est ensemble en direct en ce vendredi 25 juin, 16h56. Le Bitcoin est à un peu moins de 33 000 dollars. Et c'est là que la question brûlante arrive pour Vincent. Vincent Gann, vous êtes toujours avec nous, Vincent?
Toujours ici.
Depuis TradingView France, vous l'aviez venir, cette question. C'est un auditeur qui, la semaine dernière, déjà nous l'a posée. Alors, Xavier Fenot nous a apporté sa réponse. L'auditeur nous demande, quelle crypto présente, selon vous, le meilleur potentiel pour la suite? Vincent, votre réponse.
Écoutez, je vais vous en citer deux. Alors, je ne vais pas être très original. La première, je
citer Ethereum. Alors là, c'est plutôt une option pour, je dirais, les plus patients. C'est vraiment une question de timing. Ça fait assez longtemps qu'on attend le déploiement d'Ethereum 2.0. Quand, un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas. Mais voilà, le timing, c'est important. Il ne faut pas trop traîner. Mais moi, j'y crois et je suis persuadé que le potentiel est énorme sur Ethereum. Et justement, d'ailleurs, quand je vois un repli comme ça depuis les 4 000 $ dans la zone actuelle entre 1 500 et 2 000 $, j'estime que c'est vraiment une opportunité de long terme. Et puis donc, un second, je vais là me tourner du côté de la finance décentralisée. Il y a plusieurs choix. Moi, mon choix, c'est AAV. AAV, pour bien le prononcer, pour que les auditeurs entendent bien. Voilà, je reste persuadé que voilà, si on croit vraiment à long terme à la finance décentralisée, eh bien le meilleur choix, c'est le protocole AAV.
Pourquoi ?
Écoutez, c'est là où, d'un point de vue technique, c'est là où ça a l'air de fonctionner le mieux. Et puis, lorsqu'on regarde, je dirais, les comptes rendus des prêteurs et des emprunteurs, ils ont l'air extrêmement satisfaits. Donc, c'est comme une sorte de phare. C'est reconnu comme ayant un très bon fonctionnement. Donc, voilà.
Bien.
C'est pour ça que j'ai fait ce choix.
L'Ethereum et AAV, donc. Voilà, la semaine dernière, Xavier Fenot voyait Solana, c'est ça, le Solana, pour offrir l'un des meilleurs potentiels dans l'univers crypto. Merci beaucoup Vincent. Vincent Gann depuis TradingView France. Claire Balva, merci beaucoup Claire de nous avoir accompagnés, comme désormais chaque vendredi. À très bientôt. Vous avez cofondé avec votre collègue Alexandre...
Sachenko.
Voilà, pardonnez-moi et pardonnez surtout à lui. Excusez-moi pour le nom. Claire Balva, donc cofondatrice de Blockchain Partner, directrice de Blockchain et Crypto pour KPMG France. Et puis Owen Simonin, qui nous accompagne chaque vendredi également, youtubeur, et sa chaîne YouTube Hacheur, H-A-S-H-E-U-R. Combien d'abonnés,
Hacheur? 350 000 cette semaine.
350 000.
On a passé cette barre.
Vous étiez à 250 il y a deux mois.
C'est ça.
Ça va vite quand même.
Ah oui, comme les cours.
Eh bien bravo, merci beaucoup à tous les deux. Et c'est Pro des Cryptos, vous les retrouvez chaque vendredi en direct sur BFM Business à 16h35, également en podcast si vous souhaitez retrouver ce rendez-vous par exemple en dehors du direct. À très bientôt, bon retour à tous les deux. Le CAC 40 est toujours en légère baisse de 0,19%, 6618 points. On se reconnecte à la séance du jour dans un instant. Le club à suivre sur BFM Business jusqu'à la clôture. À tout de suite.